Je tiens à mon tour évidemment à remercier Bruno Daugeron et les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de participer à cette table ronde. C'est un honneur un peu écrasant, à l'image de l'œuvre de Jean-Marie Dancard, pour le jeune chercheur que je suis et que je représente. Son érudition et son talent, son intelligence, sa plume, qui est aussi assez remarquable, sont évidemment un exemple difficile à suivre. Je ferai une petite chose aussi. On a parlé des différents Jean-Marie Dancard, et moi, à titre personnel, j'ai connu Jean-Marie Dancard, membre du jury de thèse, et je le remercie à nouveau pour m'avoir fait l'honneur de participer et d'avoir lu mes travaux. Alors, je souhaiterais tout d'abord commencer mon propos en remarquant qu'il n'est pas du tout anodin, même très justifié. Alors, si ça m'étonnerait que ce soit un hasard, mais si c'est un hasard, c'est un heureux hasard. Que cet ouvrage soit publié dans la collection Droit politique des éditions d'Agos, tant il correspond parfaitement à cette démarche, de démarche plutôt d'école doctrine, qui est propre donc au droit politique. Je prendrai préalablement le temps de faire un bref rappel, que je suis sûrement capable de corriger ou de compléter, de l'univers doctrinal dans lequel s'inscrit votre œuvre, à savoir les facultés de droit et la doctrine constitutionnaliste. Or, c'est précisément cette discipline droit constitutionnel a évolué, les conceptions du droit constitutionnel ont évolué. La seconde moitié du XXe siècle, à ce titre, marque un prétendu renouveau du droit constitutionnel qui se traduit par la prise en compte de sa dimension politique, en intégrant notamment à son analyse la manière dont les règles institutionnelles s'appliquent en pratique. La réforme du programme des études de droit en 1954 marquera donc l'officialisation de ce tournant politiste en prévoyant l'enseignement d'un cours de droit constitutionnel et institutions politiques. Alors, il demeure cependant à prouver que ce renouveau est substantiellement renouvelé la réflexion doctrinale sur le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel demeure marqué par des cloisons dans le monde universitaire qui continuent donc et qui ont continué à séparer les juristes et les politiques. Je crois que c'est Burdeau que vous avez connu, avec qui vous avez travaillé, qui, je crois, écrivait que, étant lui-même à la croisée des chemins, il était toujours chez les juristes pris pour un politiste et chez les politistes pris pour un juriste. Donc ce renouveau ne s'accompagnait pas d'un enrichissement théorique de la matière. Il n'a d'ailleurs pas eu beaucoup de temps pour le faire, puisque l'influence politiste dans la doctrine constitutionnaliste a connu un net enrichissement par la suite. C'est évidemment le développement en France du contrôle de constitutionnalité des lois à partir des années 1970. Vous avez cette formule assez drôle, condition nécessaire et suffisante de la béatitude publique. Donc le développement du contrôle de constitutionnalité en France et l'affirmation corrélative donc, d'une conception normative de la Constitution, étendue donc aux droits et libertés, que la Constitution ou le Conseil constitutionnel reconnaît. Tout cela, évidemment, favorisait un recentrage juridique de la discipline, alors même que le droit constitutionnel semblait souffrir depuis longtemps d'un complexe propre aux juristes, en ce qui ne se manifestait pas dans les formes les plus ordinaires du vrai droit, c'est-à-dire qu'il n'était pas sanctionné par un vrai juge. Le développement progressif du contentieux constitutionnel entraînait dès lors un retour du droit constitutionnel dans la sphère strictement juridique. Le signe de cette évolution, c'est la réforme de 1997 qui entérinait la disparition des institutions politiques du programme du doc de droit. Ce mouvement de retour du droit, de retour au droit plutôt, qui a marqué la doctrine constitutionnelle contemporaine, donc, semble avoir laissé une empreinte profonde, à tel point que l'on constate encore aujourd'hui une forme de divergence, de rivalité entre les analyses juridiques et politistes du droit constitutionnel. Alors certes, à l'instar de Jacques Chevalier, certains ont plaidé pour un recouplage, c'est-à-dire un décloisonnement disciplinaire, appelant l'avènement d'une science du droit constitutionnel, susceptible de réconcilier le droit et la science politique. Mais celle-ci demeure marquée par une même logique, Il s'agit toujours d'ajouter à l'étude du droit constitutionnel positif, qui demeure marqué par le droit écrit, celle des pratiques politiques ou autres phénomènes qui infléchissent sa mise en œuvre. Or, tout autre est la perspective propre, à mon sens, au droit politique, dont vous êtes, je pense de manière assumée, l'une des plumes les plus éloquentes et l'une des voix les plus éminentes. Or, je dois ici confesser un certain embarras lorsqu'il s'agissait pour le jeune thésard que j'étais, embarras partagé par mes amis et aujourd'hui collègues, de tenter de définir ou de mettre des mots sur ce courant, cette doctrine à laquelle j'avais très présomptueusement envie d'appartenir. Je ne comprenais pas le refus de mes maîtres, de toute velléité dogmatique, le refus de faire école. Je le comprends mieux aujourd'hui, car le droit politique n'est précisément pas une dogmatique juridique. Il n'est qu'une perspective sur le droit constitutionnel, dont il a pour seule ambition de révéler, de manifester le caractère problématique. Or, vous avez mis des mots sur cette démarche, dont on ne peut constater qu'elle ne saurait s'allumer à une simple addition, droit positif plus pratique constitutionnelle, ou pratique politique égale droit constitutionnel. Donc, elle ne se résume pas à un simple recouplage disciplinaire, discipline juridique et politique. Je me permets de vous citer, puisque vous êtes à nouveau celui qui a mis des mots, notamment celui qui a mis des mots sur cette démarche. Vous écrivez, le droit constitutionnel ne peut donc sans se mutiler, ou plutôt sans se nier lui-même, séparer sa dimension jurisprudentielle et sa dimension institutionnelle. Et seule sa dimension théorique peut permettre de comprendre l'articulation des deux. Il faut en effet penser le droit constitutionnel comme droit instituant et comme droit normé, comme institué et comme normatif, comme possibilité du droit et comme droit du droit, je coupe un peu, comme possible et comme réel. Il faut décrire la distinction, la solidarité et la tension entre ces polarités. Or, cet ouvrage, à l'image de votre œuvre, se singularise par cette ambition, comprendre cette articulation du droit constitutionnel, du propre droit constitutionnel, en éclairant sa dimension théorique. Et c'est là l'intérêt de ce remarquable ouvrage, interroger, sans jamais admettre l'évidence, décomposer, disséquer des concepts aussi fondamentaux que ceux de représentation, de démocratie, de majorité. Alors, comment qualifier la méthode d'Anquin ? Je m'attarderai ici sur deux éléments qui caractérisent votre démarche. Sa dimension analytique, je l'utilise le mot de manière tout à fait bêta, je ne pense pas à la philosophie analytique. Donc, sa dimension analytique tout d'abord, et puis l'importance accordée à l'institution et à la restitution historique des phénomènes juridiques qui se manifestent par une mise en garde récurrente dans ces différents textes, mise en garde contre une tendance à lire le passé à la lumière du présent et à poser que ce qui est arrivé devait arriver. J'ai trouvé que c'était un thème qui revenait dans un certain nombre de vos articles. Alors justement sur ce rapport à l'histoire, cet élément historique, elle m'a paru particulièrement manifeste dans le remarquable article que vous consacrez à la crise du 16 mai, que je pourrais présenter ici, en invitant tout le monde à lire ce texte très stimulant. D'autant plus très stimulant parce que il est devenu presque commun de présenter aujourd'hui la crise du 16 mai, crise fondatrice du parlementarisme français, à la lumière de son interprétation que l'on pourrait qualifier de avrilo-schmittienne ou schmitto-avrilienne, à savoir la crise du 16 mai s'analyse comme l'un des éléments déterminants du choix du peuple français opéré en faveur de la République. Le peuple français avait envoyé en 1875 une majorité républicaine à la Chambre et en 1877 il a déjoué la tentative de dissolution de la Chambre par Mac-Mahon en y renvoyant une nouvelle majorité républicaine. Schmitt écrivait lui-même, la force étonnante de ce cas particulier tient à ce que le refus du coup d'État de Mac-Mahon a constitué le choix politique du peuple français pour la République et contre la monarchie, un choix que l'Assemblée nationale avait cherché à contourner donc dans les lois constitutionnelles de 1875, ce fameux compromis dilatoire. et Abril de la même manière d'en conclure que voilà, la décision fondamentale n'était intervenue qu'à l'occasion donc de cette crise buccale. Je me doute que quelque chose vous déplaît là-dedans, en ce sens que ça essentialise précisément le processus politique, les événements intervenus à cette époque-là. La conclusion qu'en tire Abril, c'est dès lors qu'une norme non écrite, la souveraineté parlementaire, dominait le droit constitutionnel positif écrit de la Troisième République. Or, les travaux que vous avez consacrés, l'article que vous avez consacré à la crise du 16 mai, s'ils ne visent pas à récuser une telle lecture républicaine de ces événements, les tempèrent par une sorte de rappel à l'histoire. Vous montrez que le point de vue du droit dans cette affaire, et c'est ceci illustre encore la perspective qui est celle du droit politique, le point de vue du droit dans cette affaire donc ne saurait nécessairement donner raison au camp républicain. Ou du moins, les arguments juridiques soulevés par les deux camps n'ont d'intérêt que s'ils sont replacés dans leur contexte, que je qualifierais ici de mieux d'idéologique. Ferrier et Gambetta, écrivez-vous, posent un principe transcendant qui précède les textes comme une sorte de droit naturel républicain et constitue l'étalon auquel l'interprétation ne saurait déroger. Ce principe a la nature théologico-politique d'un dogme, la nature juridique d'une norme métaconstitutionnelle. C'est celui du gouvernement parlementaire. Norme métajuridique à laquelle se soumettra avec fidélité Grévy le 6 février 1879. Ainsi, plutôt que d'insister sur la traditionnelle opposition de deux lectures rivales du régime de la Troisième République, régime parlementaire moniste ou régime parlementaire dualiste, lectures qui sont nécessairement a posteriori, vous parvenez à montrer que l'opposition se joue entre deux compréhensions tout autant rivales, mais qui portent sur la compréhension du gouvernement. C'est le gouvernement personnel, donc, contre le gouvernement collectif, c'est-à-dire contre le gouvernement parlementaire. Ce qui se joue donc derrière l'interprétation du droit strict, par exemple MacMahon avait-il le droit de dissoudre l'Assemblée, ne saurait être résolu par la seule lecture des textes. Ce que traduit d'ailleurs parfaitement la position de la Boulay que vous citez, et pour laquelle vous semblez avoir une certaine sympathie, en agissant de la manière dont MacMahon a agi, notamment en critiquant publiquement sans contre-saint ministériel Jules Simon, son président du Conseil, MacMahon donc s'inscrivait dans une appréhension personnelle du pouvoir. Il avait lui-même ainsi provoqué la transformation des élections d'octobre 1877 en plébiscite pour ou contre lui. On constate donc que le droit constitutionnel ne saurait être compris comme un droit sec, comme un droit hermétique aux représentations politiques, aux représentations intellectuelles du pouvoir à un moment précis de l'histoire. Cet ancrage historique et théorique du droit constitutionnel est d'autant plus précieux qu'il vous conduit à un constat finalement peu surprenant. Notre compréhension contemporaine du pouvoir nous rapproche probablement plus du camp MacMahonien que du camp républicain. De manière quelque peu surprenante, le républicanisme contemporain semble ainsi s'être réconcilié avec la personnalisation du pouvoir. C'est un très provocateur. J'en viens maintenant à mon deuxième point. La dimension analytique de votre démarche, je serai bref, je ne peux pas monopoliser la parole, mais qui tend, cette dimension analytique, a toujours à interroger, à disséquer les mots et les concepts, surtout lorsqu'ils paraissent trop évidents. Je mentionnerai ici votre article sur la majorité, la notion de majorité, où vous distinguez trois, même quatre sens du mot majorité. Tout d'abord, une majorité arithmétique. À l'occasion d'un vote précis, on fait un décompte des voix, oui, non, abstention, et on obtient donc, pour la solution qui recueille le plus de voix, une majorité. C'est le premier sens. Dans un second sens, majorité qu'on peut qualifier d'organique, parce qu'on passe d'un événement précis à une réalité répétée, persistante et stable, la majorité devient un sous-ensemble d'individus qui, au sein de l'ensemble constitué par une assemblée délibérante, se prononce d'une certaine manière. Vous ajoutez, il faut donc que le sous-ensemble en question manifeste une certaine stabilité de fait, même si les individus qui la composent n'ont mis sur pied ni organisation, ni discipline, ni même manifesté une intention claire de demeurer unis. Ceci vous amène à identifier la majorité dans un troisième sens, qui découle de cette dernière définition, celle de ces sous-ensembles, mais qui sont amenés à se pérenniser, qui, ces majorités rigides, permanentes, non fluctuantes, et utiliser ce concept pour décrire ce terme, enfin ce sens pour décrire l'idée de majorité présidentielle. Et puis un quatrième sens plus classique qui est celui de la majorité partisane parlementaire, celle qui se confond donc avec le parti majoritaire au Parlement. Une telle analyse de la notion de majorité est très éclairante car elle donne à voir et à penser des phénomènes que la novlangue appellerait des phénomènes disruptifs. Si on arrive à une question, ma question va être une question d'actualité parce que j'ai meurs d'envie d'avoir votre opinion sur ce point. Si on sort en effet du cadre de la Ve République, il semble en effet que le régime parlementaire rationalisé, et je prendrai ici volontairement l'exemple du régime britannique, donc dans sa version modèle, c'est-à-dire bipartisane. Donc le régime parlementaire rationalisé repose sur une réunion de ces différents types de majorités. Une correspondance de ces différents types de majorités. À une majorité arithmétique doit correspondre une réalité organique, stable, qui se manifeste par une majorité dans un sens partisan. Et j'en arrive donc à ma question, je suis d'autant plus heureux que vous vous posez, parce que paraît-il que vous avez quelques idées sur le référendum, qu'arrive-t-il quand une majorité arithmétique, par exemple une majorité référendaire, vient remettre en cause des majorités organiques établies? En d'autres termes, ma question est la suivante. Qu'avez-vous pensé des événements au Royaume-Uni ces dernières années, lorsqu'une majorité référendaire a disrupté les majorités établies au Parlement, provoquant, et c'est les scènes auxquelles on a assisté ces derniers mois, le retour de majorités de circonstances? J'ai trouvé, pour le dire plus simplement, votre analyse absolument remarquable et la décomposition de ces différents sens d'une même majorité pour qualifier et donner sens à ce qui paraissait totalement irrationnel, à savoir ce qui s'est passé, ces majorités impossibles, fluctuantes, auxquelles on a pu voir dans ces derniers mois à l'occasion de différentes circonstances, qu'il s'agisse de la... Enfin, essentiellement de la dissolution. Je suis très heureux d'avoir votre opinion là-dessus. Je vous remercie et je vous remercie à nouveau d'avoir donné la chance de lire ce très bel ouvrage.